Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, troisième partie, livre 35e. Les 12 000 francs de Madame la Duchesse de Berry. 2. Convoi du général Lamarque. 3. Madame la Duchesse de Berry descend en Provence et arrive dans la Vendée. 4. Mon arrestation. 5. Passage de ma loge de voleur au cabinet de toilette de Mademoiselle Gisquet. Achille de Harlay. 6. Juge d'instruction. Monsieur Desmortier. 7. Ma vie chez M. Gisquet. Je suis mise en liberté. 8. Lettre à M. le ministre de la Justice et réponse. 9. Offre de ma pension de père par Charles X. Ma réponse. 10. Billet de Mme la Duchesse de Berry. Lettre à Béranger. Départ de Paris. 11. Journal de Paris à Lugano. M. Augustin Thierry. 12. Chemin du Saint-Gothard. 13. Vallée de Schoenlennen. Pont du Diable. 14. Le Saint-Gothard. 15. Description de Lugano. 16. Les montagnes. Course autour de Lucerne. Clara Wendel. Prière des paysans. 17. Monsieur Alexandre Dumas. Madame de Colbert. Lettre de Monsieur de Béranger. 18. Zurich. Constance. Madame Récamier. 19. Madame la Duchesse de Saint-Leu. 20. Arenenberg. Retour à Genève. 21. Copé. Tombeau de Madame de Staël. 22. Promenade. 23. Lettre au prince Louis-Napoléon. 24. Lettre au ministre de la Justice, au président du Conseil, à Madame la Duchesse de Berry. J'écris mon mémoire sur la captivité de la princesse. Circulaire aux rédacteurs en chef des journaux. 25. Extrait du mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry. 26. Mon procès. 27. Popularité. Chapitre 1. Paris, rue d'Enfer, mai 1832. Les 12 000 francs de Madame la Duchesse de Berry. Madame de Berry a son petit conseil à Paris, comme Charles X a le sien. On recueillait en son nom de chétives sommes pour secourir les plus pauvres royalistes. Je proposais de distribuer aux colériques une somme de 12 000 francs de la part de la mère de Henri V. On écrivit à Massa, et non seulement la princesse approuva la disposition des fonds, mais elle aurait voulu qu'on eût réparti une somme plus considérable. Son approbation arriva le jour même où j'envoyai l'argent aux mairies. Ainsi, tout est rigoureusement vrai dans mes explications sur le don de l'exilé. Le 14 d'avril, j'envoyai au préfet de la Seine la somme entière, pour être distribué à la classe indigente de la population de Paris, atteinte de la contagion. M. de Bondy ne se trouva point à l'hôtel de ville lorsque ma lettre lui fut portée. Le secrétaire général ouvrit ma missive, ne se crut pas autorisé à recevoir l'argent. 3 jours s'écoulèrent. M. de Bondy me répondit enfin qu'il ne pouvait accepter les 12 000 francs parce que l'on verrait, sous une bienfaisance apparente, une combinaison politique contre laquelle la population parisienne protesterait tout entière par son refus. Alors mon secrétaire passa aux 12 mairies. Sur 5 maires présents, 4 acceptèrent le don de 1 000 francs. 1 le refusa. Des 7 maires absents, 5 gardèrent le silence. 2 refusèrent. je fus aussitôt assiégé d'une armée d'indigents. Bureaux de bienfaisance et de charité, ouvriers de toutes les espèces, femmes et enfants, Polonais et Italiens exilés, littérateurs, artistes, militaires, tous écrivirent, tous réclamèrent une part de bienfaits. Si j'avais eu 1 million, il eût été distribué en quelques heures. M. de Bondy avait tort de dire que la population parisienne tout entière protesterait par son refus. La population de Paris prendra toujours l'argent de tout le monde. Les farades du gouvernement étaient à mourir de rire. On eût dit que ce perfide argent légitimiste allait soulever les colériques, exciter dans les hôpitaux une insurrection d'agonisants pour marcher à l'assaut des Tuileries. Cercueils battants, glas tintants, suaires déployés sous le commandement de la mort. Ma correspondance avec les maires se prolongea par la complication du refus du préfet de Paris. Quelques-uns m'écrivirent pour me renvoyer mon argent ou pour me redemander leur reçu des dons de Madame la Duchesse de Berry. Je les leur envoyai loyalement et je délivrai cette quittance à la mairie du 12e arrondissement. J'ai reçu de la mairie du 12e arrondissement la somme de 1 000 francs qu'elle avait d'abord acceptée et qu'elle m'a renvoyée par l'ordre de Monsieur le préfet de la Seine. Paris, ce 22 avril 1832. Le maire du 9e arrondissement, M. Cronier, fut plus courageux. Il garda les 1 000 francs et fut destitué. Je lui écrivis ce billet. 29 avril 1832. Monsieur, j'apprends avec une sensible peine la disgrâce dont le bienfait de Madame la Duchesse de Berry a été envers vous la cause ou le prétexte. Vous aurez, pour vous consoler, l'estime publique, le sentiment de votre indépendance et le bonheur de vous être sacrifié à la cause des malheureux. J'ai l'honneur, etc., etc. Le maire du 4e arrondissement est tout un autre homme. M. Cadet de Gassicourt, poète pharmacien, faisant des petits vers, écrivant dans son temps, du temps de la liberté et de l'empire, une agréable déclaration classique contre ma prose romantique et contre celle de Madame de Staël. M. Cadet de Gassicourt est le héros qui a pris d'assaut la croix du portail Saint-Germain-l'Auxerrois et qui, dans une proclamation sur le choléra, a fait entendre que ces méchants carlistes pourraient bien être les empoisonneurs du vin dont le peuple avait déjà fait bonne justice. L'illustre champion m'a donc écrit la lettre suivante. Paris, le 18 mars 1832. Monsieur, j'étais absent de la mairie quand la personne envoyée par vous s'y est présentée. Cela vous expliquera le retard qu'a éprouvé ma réponse. Monsieur le préfet de la Seine, n'ayant point accepté l'argent que vous êtes chargé de lui offrir, me semble avoir tracé la conduite que doivent suivre les membres du conseil municipal. J'imiterai d'autant plus l'exemple de monsieur le préfet que je crois connaître et que je partage entièrement les sentiments qui ont dû motiver son refus. Je ne relèverai qu'en passant le titre d'altesse royale donné avec quelque affectation à la personne dont vous vous constituez l'organe. La belle-fille de Charles X n'est pas plus altesse royale en France que son beau-père n'y est roi. Mais, monsieur, il n'est personne qui ne soit moralement convaincu que cette dame agit très activement et répand des sommes bien autrement considérables que celles dont elle vous a confié l'emploi, pour exciter des troubles dans notre pays et y faire éclater la guerre civile. L'aumône qu'elle a la prétention de faire n'est qu'un moyen d'attirer sur elle et son parti une attention et une bienveillance que ses intentions sont loin de justifier. Vous ne trouverez donc pas extraordinaire qu'un magistrat, fermement attaché à la royauté constitutionnelle de Louis-Philippe, refuse des secours qui viennent d'une source pareille et cherche, auprès de vrais citoyens, des bienfaits plus purs adressés sincèrement à l'humanité et à la patrie. Je suis, avec une considération très distinguée, monsieur, etc. F. Cadet de Gassicourt. Cette révolte de M. Cadet de Gassicourt contre cette dame et contre son beau-père est bien fière. Quel progrès des Lumières et de la philosophie! Quelle indomptable indépendance! messieurs Fleurant et Purgon n'osaient regarder la face des gens qu'à genoux. Lui, monsieur Cadet, dit comme le Cid, « Nous nous levons alors !» Sa liberté est d'autant plus courageuse que ce beau-père, autrement le fils de Saint-Louis, est proscrit. Monsieur de Gassicourt est au-dessus de tout cela. Il méprise également la noblesse du temps et du malheur. C'est avec le même dédain des préjugés aristocratiques qu'il me retranche le « de » et s'en empare comme d'une conquête faite sur la gentilhommerie. Mais n'y aurait-il point quelques anciennes rivalités, quelques anciens démêlés historiques entre la maison des Cadets et la maison des Capets? Henri IV, aïeul de ce beau-père, qui n'est pas plus roi que cette dame n'est altesse royale, traversait un jour la forêt de Saint-Germain. 8 seigneurs s'y étaient embusqués pour tuer le Béarnais. Ils furent pris. Un de ces galants, dit l'Étoile, était un apothicaire qui demanda de parler au roi, auquel Sa Majesté s'étant enquis de quel état il était, il lui répondit qu'il était apothicaire. « Comment, dit le roi, a-t-on accoutumé de faire ici un état d'apothicaire? Guettez-vous les passants pour... » Henri IV était un soldat, la pudeur ne l'embarrassait guère, et il ne reculait pas plus devant un mot que devant l'ennemi. Je soupçonne monsieur de Gassicourt, à cause de son humeur contre le petit-fils de Henri IV, d'être le petit-fils du pharmacien Ligueur. Le maire du 4e arrondissement m'avait sans doute écrit dans l'espoir que j'engagerais le fer avec lui. Mais je ne veux rien engager avec M. Cadet. Qu'il me pardonne ici de lui laisser une petite marque de mon souvenir. Depuis ces jours où j'avais vu passer les grandes révolutions et les grands révolutionnaires, tout s'était bien racorni. Les hommes qui ont fait tomber un chêne replanté trop vieux pour qu'il reprît racine se sont adressés à moi. Ils m'ont demandé quelques deniers de la veuve afin d'acheter du pain. La lettre du comité des décorés de juillet est un document utile à noter pour l'instruction de l'avenir. Paris, le 20 avril 1832. Réponse, s'il vous plaît, à M. Gibert Arnaud, gérant secrétaire du comité, rue Saint-Nicaise, numéro 3. Monsieur le Vicomte, les membres de notre comité viennent avec confiance vous prier de vouloir bien les honorer d'un don en faveur des décorés de juillet. Père de famille malheureux, dans ce moment de fléau et de misère, la bienfaisance inspire la plus sincère gratitude. Nous osons espérer que vous consentirez à laisser mettre votre illustre nom à côté de celui de messieurs le général Bertrand, le général Exelmans, le général Lamarque, le général Lafayette, de plusieurs ambassadeurs, de pairs de France et de députés. Nous vous prions de nous honorer d'un mot de réponse. Et si, contre notre attente, un refus succédait à notre prière, soyez assez bon pour nous faire le renvoi de la présente. Dans les plus doux sentiments, nous vous prions, monsieur le Vicomte, d'agréer l'hommage de nos respectueuses salutations. Les membres actifs du comité constitutif des décorés de juillet. Le membre visiteur, Fort. Le commissaire spécial, Cyprien Desmarais. Le gérant secrétaire, Gibert Arnaud. Membre adjoint, Tourelle. Je n'avais garde de perdre l'avantage que me donnait ici sur elle la révolution de juillet. En distinguant entre les personnes, on créerait des ilotes parmi les infortunés, lesquels, pour certaines opinions politiques, ne pourraient jamais être secourus. Je me hâtais d'envoyer 100 francs à ces messieurs avec ce billet. Paris, ce 22 avril 1832. Messieurs, je vous remercie infiniment de vous être adressés à moi pour venir au secours de quelques pères de famille malheureux. Je m'empresse de vous envoyer la somme de 100 francs. Je regrette de n'avoir pas un don plus considérable à vous offrir. J'ai l'honneur, etc. Chateaubriand. Le reçu suivant me fut à l'instant envoyé. Monsieur le Vicomte, j'ai l'honneur de vous remercier et de vous accuser réception de la somme de 100 francs que vos bontés destinent à secourir les malheureux de juillet. Salut et respect. Le gérant secrétaire du comité, Gibert Arnaud, 23 avril. Ainsi, Madame la Duchesse de Berry aura fait l'aumône à ceux qui l'ont chassée. Les transactions montrent à nu le fond des choses. Croyez donc à quelque réalité dans un pays où personne ne prend soin des invalides de son parti, où les héros de la veille sont les délaissés du lendemain, où un peu d'or fait accourir la multitude, comme les pigeons d'une ferme s'empressent sous la main qui leur jette le grain. Il me restait encore 4 000 francs sur les 12. Je m'adressai à la religion. Monseigneur l'archevêque de Paris m'écrivit cette noble lettre. Paris, le 26 avril 1832. Monsieur le Vicomte, la charité est catholique comme la foi, étrangère aux passions des hommes, indépendante de leurs mouvements. Un des principaux caractères qui la distingue est, selon saint Paul, de ne point penser le mal, non cogitat malum. Elle bénit la main qui donne et la main qui reçoit, sans attribuer au généreux bienfaiteur d'autre motif que celui de bien faire, et sans demander aux pauvres nécessiteux d'autres conditions que celles du besoin. Elle accepte, avec une profonde et sensible reconnaissance, le don que l'auguste veuve vous a chargé de lui confier, pour être employée au soulagement de nos malheureux frères, victimes du fléau qui désole la capitale. Elle fera avec la plus exacte fidélité la répartition des 4 000 francs que vous m'avez remis de sa part, dont ma lettre est une nouvelle quittance, mais dont j'aurai l'honneur de vous envoyer l'état de distribution lorsque les intentions de la bienfaisance auront été remplies. Veuillez, monsieur le vicomte, faire agréer à madame la duchesse de Berry les remerciements d'un pasteur et d'un père qui, chaque jour, offre à Dieu sa vie pour ses brebis et ses enfants, et qui appelle de tous côtés les secours capables d'égaler leur misère. Son cœur royal a trouvé déjà en lui-même sans doute sa récompense du sacrifice qu'elle consacre à nos infortunes. La religion lui assure de plus l'effet des divines promesses consignées au livre des Béatitudes pour ceux qui font miséricorde. La répartition a été faite sur le champ entre messieurs les curés des 12 principales paroisses de Paris, auxquelles j'ai la lettre dont je joins ici la copie. Recevez, monsieur le vicomte, l'assurance, etc. Hyacinthe, archevêque de Paris. On est toujours émerveillé de savoir à quel point la religion convient au style, et donne même, au lieu commun, une gravité et une convenance que l'on sent tout d'abord. Ceci contraste avec le ton des lettres anonymes qui se sont mêlées aux lettres que je viens de citer. L'orthographe de ces lettres anonymes est assez correcte, l'écriture jolie, elles sont à proprement parler littéraires, comme la Révolution de Juillet. Ce sont les jalousies, les haines, les vanités écrivassières, à l'aise sous l'inviolabilité d'une poltronie, qui, ne montrant pas son visage, ne peut pas être rendu visible par un soufflet. Échantillon. Voudrais-tu bien nous dire, vieux républicain kyste, le jour que tu voudras graisser tes mocassines, il nous sera facile de te procurer de la graisse de chouan, et si tu voulais du sang de tes amis pour écrire leur histoire, il n'en manque pas dans la boue de Paris, son élément. Vieux brigand, demande à ton scélérat et digne ami Fitz-James si la pierre qu'il a reçue dans la partie féodale lui a fait plaisir. Tas de canailles, nous vous arracherons les tripes du ventre, etc., etc. Dans une autre missive, on voit une potence très bien dessinée, avec ces mots. Mets-toi aux genoux d'un prêtre, fais acte de contrition, car on veut ta vieille tête pour finir tes trahisons. Au surplus, le choléra dure toujours. La réponse que j'adresserais à un adversaire connu ou inconnu lui arriverait peut-être lorsqu'il serait couché sur le seuil de sa porte. S'il était au contraire destiné à vivre, où sa réplique me parviendrait-elle? Peut-être dans ce lieu de repos dont aujourd'hui personne ne peut s'effrayer, surtout nous autres, hommes, qui avons étendu nos années entre la terreur et la peste, premier et dernier horizon de notre vie. Trêve, laissons passer les cercueils. Chapitre 2. Paris, rue d'Enfer, 10 juin 1832. Convoi du général Lamarque. Le convoi du général Lamarque a amené deux journées sanglantes et la victoire de la quasi-légitimité sur le parti républicain. Ce parti incomplet et divisé a fait une résistance héroïque. On a mis Paris en état de siège. C'est la censure sur la plus grande échelle possible, la censure à la manière de la Convention, avec cette différence qu'une commission militaire remplace le tribunal révolutionnaire. On fait fusiller, en juin 1832, les hommes qui remportèrent la victoire en juillet 1830. Cette même école polytechnique, cette même artillerie de la garde nationale, on les sacrifie. Elles conquirent le pouvoir pour ceux qui les foudroient, les désavouent et les licencient. Les républicains ont certainement le tort d'avoir préconisé des mesures d'anarchie et de désordre. Mais que n'employâtes-vous d'aussi nobles bras à nos frontières? Ils nous auraient délivrés du joug ignominieux de l'étranger. Des têtes généreuses, exaltées, ne seraient pas restées à fermenter dans Paris, à s'enflammer contre l'humiliation de notre politique extérieure et contre la foi démentie de la royauté nouvelle. Vous avez été impitoyable, vous qui, sans partager les périls des trois journées, en avez recueilli le fruit. Allez maintenant avec les maires reconnaître les corps de ces décorés de juillet, de qui vous tenez place, richesse, honneur. Jeunes gens, vous n'obtenez pas tous le même sort sur le même rivage. Vous avez un tombeau sous la colonnade du Louvre et une place à la morgue. Les uns pour avoir ravi, les autres pour avoir donné une couronne. Vos noms, qui les sait? Vous, sacrificateurs et victimes à jamais ignorés d'une révolution mémorable. Le sang dont sont cimentés les monuments que les hommes admirent est-il connu? Les ouvriers qui bâtirent la grande pyramide pour le cadavre d'un roi sans gloire dorment oubliés dans le sable, auprès de l'indigente racine qui servit à les nourrir pendant leur travail.